Le prochain arrêt sera à la frontière russe. Cela prend du temps de changer de wagon et de voie et de passer les contrôles de douane et de police. Les fonctionnaires prévenants, les gendarmes déférents, frémiraient s'ils soupçonnaient le genre de gibier qui est en train de leur filer entre les doigts. Mais qui suspecterait des plus noirs, des plus rouges, des saints, cette riche mère de famille rentrant de villégiature, à la fois inquiète et placide comme une poule parmi ses poussins. Et pourtant, pour brouiller les pistes et rester le plus longtemps possible ignorée de l'Okhrana, cette haute police de basses œuvres, Inès Elisaveta Fyodorovna Armand, pour l'état civil, a pris un nom de code. Le premier d'une longue série qui ne finira que 14 ans plus tard avec la prise du palais Smolny. Camarades, policiers et mouchards ne devaient connaître désormais d'elle qu'un prénom, Irina. Une Irina parée comme une bourgeoise au-dessus de tout soupçon et chargée de remettre aux révolutionnaires de l'intérieur les instructions et les messages des dirigeants en exil. Mais Inès n'est pas le genre de femme à avoir froid aux yeux et encore moins à se contenter de jouer les utilités, les estafettes d'occasion. Au fond de ses malles, sous les manteaux et les robes sortis des meilleurs couturiers, sous les chemisiers dans leur papier de soie, des lingeries, des milanaises fines, la digne épouse du citoyen honoraire héréditaire Armand va introduire frauduleusement en Russie assez de livres et de brochures interdites pour fonder ce qui sera la première bibliothèque bolchévique du pays. Alors voilà, ça c'est en fait un des premiers engagements d'Inès Armand. Et après un certain nombre d'événements encore difficiles pour elle à Moscou, notamment, elle sera au bout d'un certain temps incarcérée, exilée par l'Okhrana. Elle va s'évader d'une prison en Sibérie. Et elle va, après cette évasion, évidemment, elle ne peut plus rentrer en Russie. Et elle s'installe à Paris. Elle retrouve d'ailleurs son mari Alexandre avec deux de ses fils, parce que lui aussi travaillait facilement dans un autre pays que le sien. Il est venu 2 ans en France pour étudier l'agriculture, puisqu'il s'occupait de ses domaines en Russie. À ce moment-là, elle fait encore des études d'économie politique à Bruxelles et elle décide donc de rester à Paris, et à ce moment-là, elle rencontre évidemment celui dont on parle sur la couverture, Lénine, puisque en fait, quand on achète ce livre dans une librairie, eh bien, il y a un petit ruban rouge où on indique qu'elle est la maîtresse de Lénine. Ah. Alors évidemment que c'est très accrocheur.
Nous y voilà.
Mais bon, c'est pour ça que j'ai en fait assez insisté sur le début de la vie et la description de cet engagement personnel et de cette grande famille Armand qui vivait de différentes manières, parce que je crois que effectivement cette rencontre a été très importante pour Inès Armand, comme d'ailleurs je pense que le contact avec Lénine a enrichi pas mal de gens, ou en tout cas a été très important pour pas mal de gens entre les années 10 et 20. Et elle a été d'ailleurs effectivement une amie fidèle du couple Lénine jusqu'à la fin de sa vie, et lors de son enterrement, Lénine, ses enfants, sa femme étaient présents et étaient, d'après les témoignages qui ont été recueillis, extrêmement émus et tristes de la mort de leur amie commune. Mais bon, je crois qu'effectivement, son idylle avec Lénine a été apparemment une réalité. Le biographe précise bien que ça a été très très difficile d'avoir... Il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de journal intime, il n'y a rien de très... À part quelques petits témoignages recueillis. Bon... qui peuvent aussi être des paroles envolées, pas forcément justes. Il y a eu en tout cas une grande amitié et un grand travail commun entre Lénine et Inès Armand. Donc c'est à ce moment-là, en 1910 à Paris, qu'elle les rencontre et qu'elle va vivre très proche d'eux. Comme elle était bilingue, elle faisait énormément de travail de traduction pour Lénine, et elle était une femme très disponible, puisqu'en fait elle avait il faut le dire, elle s'était engagée plus tôt à ce moment-là du côté de la Révolution. Donc son engagement social était devenu très important. Et tout en restant proche de ses enfants, il y a beaucoup de témoignages. Il y a des extraits de journal intime qu'on a retrouvés où elle parle beaucoup de ses enfants, mais qui étaient élevés par la famille. C'était très courant à l'époque, c'était pas la mère ou le père qui étaient les éducateurs de choix. Il y avait des instituts, il y avait des écoles privées, il y avait des nounous, des précepteurs. Mais elle suit ses enfants, ils viennent souvent la voir, ils viennent à Paris, ils font des voyages ensemble. Mais elle s'engage essentiellement aux côtés des bolcheviks russes et elle va être en mission constamment jusqu'à la fin de sa vie. En fait, elle fera donc partie aussi du groupement des Russes qui vont rentrer en Union soviétique. On peut dire à ce moment-là, c'est vraiment l'Union soviétique. Par le fameux wagon plan B.
Ah, voilà.
Dans lequel il y a la description du retour de ce voyage avec toutes les implications politiques pas très claires qui existent autour de ce fameux voyage. Donc elle était, c'est bien la preuve qu'elle était très proche de Lénine et de ses amis. Il y a aussi pas mal de passages dans le livre où on évoque l'amitié entre Nadjeïda Krupskaïa, qui est donc la femme de Lénine, et Inès Armand.
Mais donc son travail d'engagement, disons, aux côtés des révolutionnaires, des bolcheviks soviétiques, russes, est surtout plutôt une tâche de... Elle, c'est pas une militante de la rue. On la trouve pas dans un combat plus populaire comme on trouvait Rosa Luxembourg, par exemple.
Non, elle s'exprime peu en public, mais elle est la secrétaire parfaite. C'est elle qui rédige tout. Elle fait énormément de travail de rédaction. Elle se déplace énormément. Elle transmet des messages. Et elle est envoyée, par exemple, au congrès de Zimmerwald, qui était avant 1917, où les communistes ont essayé d'élaborer un certain nombre de plateformes. Et c'est toujours elle. Elle fait aussi office de boîte aux lettres, en fait. Elle travaille dans la clandestinité plutôt que comme déléguée. Mais après 1917, de 1917 à 1920, donc année de sa mort, elle meurt très subitement, jeune, du choléra qu'elle a contracté dans un voyage. Ça a été une fin rapide et dramatique. Et le passage où on évoque le retour du cercueil dans un wagon, dans un cercueil de zinc, c'est assez poignant. En fait, on se rend compte que cette femme, justement, a laissé une impression très forte aux gens qui l'ont entourée, que ce soit les gens de sa famille ou justement ses compagnons de route, socialistes.
Elle aura donc vu que les toutes premières années de la Révolution.
Absolument, absolument. Et c'est vrai que...
Mais les premières années de la guerre aussi en Union soviétique.
Elle a vécu les moments difficiles aussi. L'épisode avec l'espion Malinovski est évoqué dans le livre. Et ça donne aussi... une bonne idée de la difficulté des contacts qu'ils avaient entre eux, et dû à un certain nombre aussi bien à des raisons de langue que des raisons de communication. Il n'y avait pas les mêmes possibilités de communication aujourd'hui, et les difficultés de compréhension d'ordre politique, ça c'est sûr.
Alors, quand au tout début, tu nous as dit, Annette, ce qui m'a intéressée, attirée, c'est l'histoire de ce destin particulier. Alors, qu'est-ce que tu relèves de particulier dans l'histoire de cette femme? Parce que finalement, quand je t'entends raconter un peu son travail au sein des révolutionnaires, j'ai l'impression de revoir ce que faisaient certaines d'entre nous, par exemple, pendant mai 68, au service de la Révolution. Mais pas vraiment... à égalité avec ceux qui faisaient la Révolution.
Bon, je pense que ta comparaison peut tout à fait être reçue. C'est vrai qu'elle a été importante, mais qu'elle était quand même en deçà d'une certaine scène. Elle n'a pas été... La preuve en est qu'aujourd'hui, personne ne la connaît. En fait, c'est un petit peu étonnant. Si on lit cette biographie, on se dit une femme qui a tellement travaillé, qui s'est tellement donnée, qui s'est tellement engagée, pourquoi est-ce qu'on en parle si peu? Et je crois que le mystère n'est pas encore tout à fait éclairci. Moi, ce que je garde surtout du voyage avec cette femme, c'est cette... ces différentes étapes dans sa vie. Au début, c'était une très bonne pianiste, hein, puisqu'elle avait un père artiste. Elle a toujours été aussi proche de la musique. Elle jouait du piano. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle avait toujours avec elle un piano. Elle vivait avec très peu de choses, mais il lui fallait quand même un instrument, parce que pour elle, c'était très important. Alors d'abord, elle a été une jeune fille type bonne famille, qui est musicienne. Ensuite, la femme d'un grand bourgeois, qui aurait pu se contenter d'être adulée, de vivre avec beaucoup d'avantages, finalement, puisque son mari, Alexandre Armand, était quelqu'un d'extrêmement ouvert. Et finalement, choisir la voie difficile du compagnonnage avec les socialistes, avec les bolcheviks russes. Et je crois que c'est assez exemplaire, effectivement, et que ça a été une époque où tout était possible, probablement, où on croyait que tout était possible, et je pense qu'elle l'a cru. Et ça, je trouve que c'est extrêmement prégnant.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida.
Merci à la vie, Violette Appare. Alors Evelyne, tu nous emmènes dans le nouveau livre d'Isabelle Allende.
Voilà, c'est pour ça qu'on a changé de continent, on a changé de musique. Et puis on a pris cette chanson parce que Isabelle Allende, qui est une compatriote de Violette Appare, donc une chilienne, lui a fait une dédicace dans son dernier livre à Violette Appare pour cette chanson. Le remerciant pour la vie qui lui a donné le rire, qui lui a donné... les pleurs aussi. Alors Isabelle Allende, oui, je l'ai choisi comme un beau roman que j'ai beaucoup aimé, puisqu'on avait décidé de parler de romans pour l'été, de romans pour les vacances. Et je l'ai lu et je pourrais te donner quelques des éléments qui sont dans le livre, te dire un peu pourquoi je l'ai aimé.
Alors, le plan infini d'abord, rappelons le titre, peut-être.
On n'avait pas dit le titre.
On avait dit tout à l'heure, mais c'est il y a un petit moment maintenant.
Oui, c'est un titre d'ailleurs qui ne dit pas grand-chose, finalement, qui est un petit peu intriguant. Et le plan infini, et ça ne s'éclaircit pas vraiment dans le livre, je dirais. Bon, on sait assez vite qu'est le plan infini dans le livre. C'est d'abord... un écriteau sur une vieille guimbarde qui se trimballe au travers des États-Unis, dans laquelle se trouve la famille du héros et le héros lui-même. Et puis on apprend assez vite que c'est en fait une sorte de philosophie dont le père s'est fait le prédicateur à travers les États-Unis. C'est ça le plan infini. Bon, un peu plus loin, disons petit à petit, comme il s'agit de l'histoire d'une vie, on se rend compte que ça veut peut-être dire la voie qu'on prend, la place qu'on se trouve au monde, quelque chose comme ça. Mais enfin, c'est pas très clair.
Mais est-ce que ça a de l'importance que ce soit pas très clair ?
Non. On va suivre les aventures de notre héros et il va nous tenir en haleine du début jusqu'à la fin, en tout cas moi, et c'est ça qui compte. Hein. Et puis qu'il ait fini à la fin par trouver son propre plan infini, on l'espère pour lui. Mais de toute façon, on n'en connaît pas vraiment les éléments concrets.
Donc Isabelle Allende décrit l'histoire d'un héros.
Oui, alors, c'est la première fois en fait qu'elle a un homme comme personnage central, et puis qui n'est pas latino-américain. Donc c'est un Américain, il s'appelle Gregory Reeves, et son ascendance est d'ailleurs très mélangée. Tu vas voir tout de suite que dans le roman, il y a des personnages qui proviennent d'horizons très différents, de cultures différentes, de points du monde différents. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse aussi de ce livre, c'est de voir d'une certaine manière rassembler quelque part des influences qui viennent du monde entier. Je dis ça parce que les parents du héros, le père du héros est né en Australie. Et il était lui-même le fils d'un voleur de chevaux anglais qu'on avait exilé à Sydney.
C'est comme ça qu'on peuplait les colonies autrefois.
Voilà. et puis qu'on éliminait les mauvais sujets, qu'on les envoyait assez loin. Donc, le père du héros est né en Australie, et c'est après avoir beaucoup bourlingué sur les mers, etc., qu'il s'est d'un jour arrêté aux États-Unis et a décidé de rester dans ce pays-là. Mais il ne s'est pas tout de suite installé quelque part non plus. C'est un homme qui a vécu de petits boulots, qu'il avait un certain talent de peintre. Alors, il sur demande de clients dans la rue, il dressait des petits portraits de paysages qu'il s'inspirait d'exemplaires du National Geographic qui montrait à ses clients. On disait, qu'est-ce que vous voulez, vous avez un fond de jungle ou un paysage de je sais pas quoi, de savane. Le client choisissait et hop, il faisait son petit tableau. C'est comme ça qu'il a vécu jusqu'au moment où il a été inspiré par cette philosophie du plan infini qu'il a, on peut dire, lui-même créé, et en est devenu le prédicateur. Donc ça, c'est le père du héros. La mère du héros, c'est une juive d'Odessa qui est arrivée aux États-Unis, réfugiée entre les deux guerres mondiales, on ne sait pas bien exactement quand, et qui a rencontré le père en assistant un soir à une de ses conférences philosophiques sur le plan infini, quand il s'est arrêté dans son village, qui a été séduite et qui, à ce moment-là, l'a épousée et puis a commencé à partager sa vie. Alors, voilà, les parents donc, viennent déjà de deux univers très différents. Et donc, cette famille voyage à travers les États-Unis dans une vieille carriole, avec toutes leurs affaires avec eux, hein, et passe de village en village, enfin s'arrête où bon leur semble, là où l'inspiration leur vient. Et le père arrive plus ou moins à gagner la vie du groupe avec ses prédications, puis la vente de ses petits livres. Et puis ils emmènent avec eux aussi une autre Russe qui, par hasard, avait fait le même voyage que la mère du héros, qui s'appelle Olga, qui est un petit peu diseuse de bonne aventure, par intuition, pas vraiment par formation, qui deviendra plus tard une guérisseuse assez connue et assez bien reçue dans la population où elle s'installera. Et voilà, c'est ce petit groupe qui voyage comme ça et qui est obligé un beau jour de s'arrêter parce que le père tombe malade et meurt. Et là, quand il s'arrête à Los Angeles. Et là, évidemment, ils étaient déjà pas très loin de la misère. Ils tombent vraiment dans la misère parce qu'il reste la mère du héros. Le héros qui est encore petit, qui a 5-6 ans, sa sœur qui est un petit peu plus âgée, et puis cette sorte de tante qu'ils ont avec eux, Olga, la guérisseuse. Et donc le père meurt, disparaît. Et alors ces blancs, qui sont très blancs d'ailleurs, parce que par héritage de la mère, ils sont très blonds et aux yeux bleus, et s'arrête finalement dans un quartier qui est peuplé de Chicanos à Los Angeles. Ils sont dans un quartier de Mexicains de première et deuxième génération installés aux États-Unis, donc pas du tout dans leur culture. Et ils vont être des petits blancs qui vont essayer de survivre au milieu de ce barrio latino, hein, de Los Angeles. Alors c'est très intéressant parce que ça permet à l'auteur de décrire la culture des Chicanos assez d'une manière assez approfondie, et puis de décrire aussi comment se forme un jeune homme qui est comme ça entre deux cultures, qui sait bien qu'il est blanc parce que on l'appelle d'ailleurs le gringo. Hein, parmi ses camarades d'école et de jeu, il sait bien qu'il est différent des Mexicains qui sont autour de lui, et en même temps il n'est pas plus riche qu'eux, sa vie est tout aussi difficile que celle de ses compagnons.
Evelyne, qu'est-ce qui fait que Isabelle Allende se lance à décrire le milieu des Chicanos à Los Angeles? Elle connaît ce milieu-là?
Alors je sais qu'elle a vécu à San Francisco. Donc je pense qu'elle connaissait assez bien ce milieu. Mm-hmm. Et puis, Bon, évidemment, les Mexicains ont leur culture, mais ce sont quand même aussi des Latino-Américains. Voilà. Donc, on peut mettre dans leur bouche des réflexions, des manières de voir qu'on pourrait mettre dans la bouche d'un Vénézuélien ou d'un Colombien ou d'un Chilien. Mmh. Il y a quand même... en tout cas, moi, quand je l'ai lu en espagnol, ça ne m'a pas du tout choquée. Tout ce qu'elle disait des Mexicains, je le trouvais... moi, je connaissais aussi un petit peu le milieu. Je le trouvais très, très bien dépeint. En plus, après, j'ai eu connaissance qu'elle a vécu à San Francisco. Peut-être qu'elle habite encore aujourd'hui, d'ailleurs, à San Francisco. Donc, je crois qu'elle sait de quoi elle parle. Mais elle décrit pas seulement ça. Elle arrive à décrire les... Et bien sûr, il y a aussi des Noirs à Los Angeles. Et avec les Noirs, elle raconte d'une certaine manière, ou elle rappelle toutes les origines africaines, toute la nostalgie et puis les ravages de l'esclavage. Ça revient comme ça dans le livre. Ces Noirs qui, après tellement de difficultés, arrivent quand même à aller de l'avant, et puis avec humour même. Donc elle décrit la culture des petits blancs, des Chicanos, des Noirs. D'une certaine manière aussi, elle arrive à intégrer l'Asie dans son histoire, parce que on verra à travers la vie du héros qui commence un petit peu pendant la Deuxième Guerre mondiale et puis se termine de nos jours, c'est-à-dire à peu près le même temps de vie qu'elle a elle-même, l'auteur. Hein. On verra le héros aller à la guerre du Vietnam. Donc là aussi, elle va nous apporter un morceau d'Asie. Ce qu'elle dit aussi sur la guerre du Vietnam, je trouve toujours ça extraordinaire. Comment un auteur qui n'est pas du même sexe que son héros arrive à rentrer dans la peau de son personnage, puis en plus à aller dans une guerre. Alors on sent très bien qu'elle est plutôt... Elle doit être assez antimilitariste. Enfin, elle n'approuve pas la guerre. Elle arrive à rentrer dans cette... Enfin, je ne sais pas comment elle travaille, mais enfin, on est avec elle au Vietnam et on suit très bien notre héros.
Quand donc, tu dis que tu
l'Asie
comprends.
L'Asie rentre aussi hein, par là. Mmh. Et puis, une description assez curieuse de Saïgon pendant la guerre, qui est une ville qui apparemment se livrait à des tas d'occupation, commune, et on n'avait pas trop l'impression que c'était une ville en guerre. Malgré les, enfin, je sais pas, moi, toutes les destructions, puis toutes les menaces qu'il y avait sur la ville. Mais je t'ai arrêté.
Non, c'est moi qui allais te couper. Quand tu dis que tu t'étonnes qu'elle soit capable de parler à la place de son héros alors qu'elle est de sexe différent, est-ce que tout de suite, moi, je pensais plutôt qu'elle a dû rencontrer quelqu'un qui a vécu ce destin-là, non ? Tu ne crois pas ?
Peut-être. Alors, depuis un certain nombre d'années, elle a un compagnon, parce que souvent, elle lui dédicace ses livres aussi qui a un nom en anglais. Alors, je ne sais pas si c'est un anglais, je ne sais pas si c'est un américain. Il s'appelle William Gordon. Je ne sais pas si c'est lui qui, effectivement, a pu lui inspirer toutes ces choses, lui a raconté toutes ces... Dans un autre roman qui s'appelle D'amour et d'ombre, il y a une histoire d'amour, en fait, entre une latino-américaine qui a l'air d'être elle et un étranger qui, je crois... qu'il est autrichien dans ce livre-là, dans ce roman-là. C'est un photographe. Bon, alors, bien sûr, elle a eu de bonnes informations. Et bon, alors, toutes ces cultures qu'elle a décrites sont intéressantes. Et ça, c'est une des choses, pour une lectrice qui s'intéresse à cette question de la multiculture, les multicultures du monde d'aujourd'hui, c'est déjà une façon... très intéressante de se passer un été en lisant ça.